Good Morning Business. Le débat.
Le sujet explosif des concessions autoroutières. Est-ce qu'elles sont trop en faveur des concessionnaires? Est-ce que le taux de rentabilité garanti par l'État est un privilège? C'est notamment l'autorité de régulation des transports qui soulève un peu le lièvre avec ce rapport. Et puis Bercy aussi qui a fait un rapport qu'on cache dans un placard et qui dit qu'on rémunère trop les sociétés d'autoroute. Expliquez-nous, Nicolas.
Alors, juste sur l'histoire du TRI, le taux de rentabilité interne, qui est une façon de calculer une rentabilité en moyenne annuelle par rapport à un investissement de départ. En l'occurrence, en 2006, quand ils ont acheté les autoroutes, et au regard des investissements prévus. Le rapport de l'autorité de régulation des transports d'hier dit absolument pas la même chose que le rapport de l'inspection générale des finances, commandé en 2020, c'est vrai, jamais rendu public. Mais Bercy a parfaitement le droit de ne pas rendre public un rapport. Il n'y a pas l'obligation de publier.
Sauf que ce rapport dit que la rentabilité est de 15%.
Elle 12. Il disait 12. Autour de 12 pour certains réseaux. Tandis qu'effectivement, dans les contrats de départ, il est inscrit un TRI à 7,6. Et là, le document de l'autorité de régulation des transports nous dit qu'on est exactement aujourd'hui avec le niveau de rentabilité prévu dans les contrats. Donc là, guerre de chiffres, guerre de méthodologie pour calculer le TRI. Je ne me demandais pas d'arbitrer.
Mais la question des concessions, elle est quand même noire sur blanc. Il faut revoir le modèle économique, dit l'autorité des transports.
Eux, ils sont pour la concurrence. Clairement pour la concurrence. Il dit, si vous voulez aller vers des régies, la gestion des réseaux en régie publique, c'est un choix politique, ça vous regarde, mais eux défendent la concurrence. Ils mettent quand même sacrément en cause
la durée des concessions.
Non, la durée des concessions, mais surtout l'incompétence de l'État. Quand même. Parce qu'on voit bien qu'ils ont fait ça, ils ont bâclé en fait l'opération en 2006, notamment juridiquement dans la rédaction des contrats. En face, vous aviez des concessionnaires privés, des Vinci et autres, qui étaient bardés d'avocats compétents et qui ont fait des contrats aux petits oignons en Kevlar. Et à chaque fois que vous avez eu un différend entre l'État et les concessionnaires privés, systématiquement devant les tribunaux, ce sont les concessionnaires privés qui ont gagné.
Même chose en 2016, lorsque Ségolène Royal a renégocié les contrats de concession. Elle a dit après devant la commission parlementaire qu'elle avait même pas lu qu'elle avait signé, qu'elle avait fait une erreur.
Mais l'incompétence du pouvoir politique est absolument évidente. Alors, ce qui est intéressant, c'est de la concurrence. Oui, très bien, mais sur l'autoroute Paris-Bordeaux, vous n'allez pas avoir trois autoroutes côte à côte avec différents péages, différents opérateurs qui se font concurrence. Ouais. Donc, c'est assez compliqué de créer de la vraie concurrence dans ce type de business. Donc là, ils ont une idée qui serait de découper géographiquement par tronçon pour créer des tronçons opérés par différents opérateurs.
Ils disent réduire aussi la durée des concessions pour que l'État puisse renégocier.
Non, mais vous savez pourquoi on a des concessions qui jouent jusqu'à 2031-2035. Dès que l'État a eu un problème ou un litige avec les concessionnaires, pour éviter d'y laisser sa chemise devant les tribunaux, il a accordé des années supplémentaires de concessions et on a multiplié les avenants qui nous conduisent à des concessions qui durent 25-30 ans, ce qui est beaucoup trop long.
Jean-Marc Daniel, avez-vous vous-même rédigé ce rapport?
Non, je ne l'ai pas rédigé.
Rédigé celui de Bercy.
Jean-Marc, il n'aurait jamais écrit potentiellement des régies publiques.
La concurrence. D'abord, c'est un secteur où il y a quand même de la concurrence. Si on veut, entre Paris et Bordeaux, il n'y a pas deux autoroutes, mais il y a encore la vieille nationale 10, il y a encore des chemins de fer.
Oui, mais...
Et donc, on peut effectivement faire des choix. Après, il y a un coût différent, il y a effectivement, mais le gain de temps a un prix par rapport à l'ancienne
nationale. Mais c'est quand même une rente, Jean-Marc.
Non, c'est pas une rente, parce qu'elle est remise en cause régulièrement par, effectivement, une réadjudication. Et vous avez deux problèmes. Le premier problème, c'est que lorsque le gouvernement Villepin a effectivement pris cette décision, le but, c'était d'économiser sur la dette publique. C'est-à-dire, on remboursait de la dette publique, et donc le calcul était fait sur la base...
La privatisation de certains...
était sur la base du taux d'intérêt de l'époque.
Et voilà.
Le taux d'intérêt était à 4,5%. Et donc, ce que n'avait pas anticipé, donc par-delà l'incompétence juridique, ce que n'avaient pas anticipé les gens qui ont fait le calcul économique, c'est que les taux d'intérêt s'effondreraient dans des proportions dans lesquelles ils se sont effondrés.
Ouais. Et donc augmenteraient la rentabilité.
Et augmenteraient la rentabilité et feraient en sorte que l'économie sur la dette publique, elle, serait amoindrie. Donc, il y avait un calcul économique sur la base d'une hypothèse qui était une hypothèse fausse, mais qui était difficile à anticiper. Enfin, il était difficile à anticiper cette baisse des taux d'intérêt. La deuxième chose, c'est que c'est un processus d'enchères. Et donc là, depuis 1961, il y a cinq équipes qui ont eu le prix Nobel pour avoir analysé les enchères. Les derniers, c'est en 2020. C'est le Milgram et Wilson. Et donc, c'est ce qu'on appelle en économie la malédiction du vainqueur. Quand le cahier des charges est mal rédigé, quand les informations ne sont pas assez abondantes, la tendance naturelle des gens qui veulent acheter, c'est de sous-estimer la valeur de ce qu'ils achètent, de faire des prix très très bas. débat pour essayer effectivement de ne pas avoir à payer trop cher. Et puis,
c'est normal.
Oui, absolument. Et puis, en revanche, de notre côté, il y a ceux qui veulent absolument essayer d'être sûr de eux. Ils surévaluent le prix. Et donc, vous avez une contradiction entre les deux stratégies. Ceux qui se disent, j'en sais pas assez, donc je vais essayer de faire en sorte que ça ne me coûte pas trop cher. Et ceux qui disent, je veux être sûr d'avoir le truc, donc je vais au contraire surévaluer. Et donc, dans la malédiction du vainqueur, il y a tantôt le vainqueur, c'est suivant ce qu'ils ont fait, celui qui a payé trop cher, et à ce moment-là, il va procédurer pendant toute la période de la concession pour essayer de se refaire, ou en revanche, celui qui a pas payé assez cher, et à ce moment-là, on va dire après, mais vous vous rendez compte, on a bradé le produit. Et donc, la bonne réponse, c'est effectivement, un, d'avoir des gens qui sachent rédiger un cahier des charges, et deux, d'avoir des durées de concession, qui sont des durées de concession, qui permettent à la remise en concurrence de façon régulière.
Donc
et relativement
pas 70 ans.
Et pas 70 ans.
Ce qui m'a toujours frappé dans cette histoire, c'est pourquoi il y a une telle passion sur les autoroutes. J'ai jamais vu personne revendiquer le retour des PTT à la place d'Orange, vous voyez. J'ai jamais vu quelqu'un qui regrettait la TF1 entreprise publique, par exemple.
Dans le télécom, la concurrence a fait baisser les prix.
Ouais, mais j'ai jamais vu des gens émus.
Dans les autoroutes, ça n'arrêtait pas d'augmenter.
J'ai jamais vu des gens émus de prendre un transport public privé dans une ville de France. Alors les autoroutes, mais objectivement, si les autoroutes étaient des régies publiques, qui est vraiment capable de dire si ce serait mieux ou moins bien, plus cher ou moins cher?
Non, mais objectivement,
franchement, sur les autoroutes, je suis incapable de vous dire les automobilistes paieraient moins cher.
Il y a plein de secteurs où la concurrence a amené la baisse des prix. C'est pas le cas sur l'autoroute, quoi.
Non, il y a quand même deux choses qui sont à mettre en avant. Encore une fois, c'est que dans les quelques tronçons qu'a conservé l'État, les tarifs sont également des tarifs extrêmement élevés. Et la deuxième chose, encore une fois, vous avez encore beaucoup de circulation automobile qui contourne l'autoroute à cause du prix. Et donc, ça oblige les concessions à faire, à limiter la hausse des prix. Je maintiens, vous avez encore un réseau routier qui est à côté des autoroutes.
Le fait que l'ensemble des acteurs privés se battent comme des chiens pour conserver ces concessions, c'est un business.
C'est pas encore très concurrentiel.
Quand même pas un business.
Monsieur Daniel, pour travailler sur les autoroutes, c'est pas encore assez concurrentiel. Ça, les prix.
Ah oui, je suis
pas
d'accord. Il faut mieux rédiger les cahiers des charges.
Et il faut. C'est pas un business comme les autres. Est-ce que quand vous ouvrez votre robinet, vous savez si l'eau qui coule, elle vient d'une régie publique ou d'un concessionnaire privé?
Non.
Voilà. Et en fait, tous les Français ont de l'eau à peu près au même prix. Voilà. Je crois pas qu'on puisse évoquer les autoroutes comme on évoque tous les secteurs, par exemple les télécoms.